Vous écoutez Radion, il est 21h passé de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce mercredi 2 mai pour le 341e numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Au sommaire de notre émission ce soir, la suite du compte-rendu de la 21e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 7 et 8 avril dernier, un grand rendez-vous en Bourgogne organisé par la soixantaine de bénévoles de l'association Lire en pays autunois. Plusieurs rencontres dans notre émission, notamment avec Véronique Masneau, auteure jeunesse et illustratrice, et nous évoquerons avec Daniel-Henri Vincent, Roger de Rabutin, comte de Bussy. On commémore en effet cette année le 400e anniversaire de la naissance de cette étonnante figure du XVIIe siècle, inventeur d'un certain libertinage bien français. Si vous le voulez bien, ouvrons ce numéro de Wagon Livre avec le musée des nourrices et des enfants de l'assistance publique qui avait un stand à la fête du livre d'Autun. Ce musée est installé dans la Nièvre, très précisément à Aligny-en-Morvan. Et à ce stand, il y avait la présidente de l'association des amis du musée et trois auteurs que nous avons eu plaisir à rencontrer et à interviewer. Si vous le voulez bien, on commence à donner d'abord la parole à Martine Chalandre, qui est donc la présidente de l'association des amis du musée des nourrices. Martine Chalandre à notre micro.
Alors moi je préside l'association des amis de la maison des enfants de l'assistance publique et des nourrices qui est à l'origine du projet et qui a soutenu le projet pendant toutes ces longues années de gestation jusqu'à l'ouverture en 2016.
Donc il y a 2 ans maintenant que ce musée des nourrices est ouvert à Aligny-en-Morvan. Donc on est au plein cœur du Morvan.
En plein cœur du Morvan, en plein cœur du parc naturel régional, puisque nous faisons partie de l'écomusée du Morvan, l'écomusée du parc naturel régional.
Et au musée des nourrices, il y a également des chambres d'hôtes.
Alors, ce n'est pas qu'un musée, c'est une maison, c'est un lieu de vie où il y a 3 chambres d'hôtes, effectivement, dans le jardin. 3 chambres d'hôtes et il y a également un bar où on peut grignoter et boire des choses fort agréables. Et puis il y a également une boutique où on peut acheter des produits du terroir et des livres, bien évidemment.
Alors justement, c'est que au stand du musée des nourrices, ici à cette fête du livre, se trouvent 3 auteurs qui nous accompagnent. Il y a donc Zora Malfondet, Francis Vénat et Jean-Pierre Renaud. Alors, on va commencer par Zora Malfondet. Zora, dans un premier temps, est-ce que je peux vous demander de vous présenter aux auditrices et auditeurs de Radion?
Oui, bien sûr, bonjour. Je m'appelle Zora Malfondet. J'ai été élevée à Arnel-Duc, pas loin des portes du Morvan. J'ai été abandonnée petite à 24 mois. J'ai eu la chance de tomber dans une famille d'accueil formidable. Là, j'ai écrit un premier livre sur mes frères, une fratrie très atypique. Et puis là, c'est un roman autobiographique, c'est-à-dire que il y a une petite part de vérité, une part d'imaginaire, et puis après, on peut laisser aller à plein de choses. En fait, je viens de boucler la boucle de mon enfance, un peu tardivement, certes, mais ça y est, c'est fait.
Alors, ce roman autobiographique a pour titre Improbable rencontre. Il est disponible aux éditions
Amalté.
Et ça a été un exercice facile de se confier comme ça par le biais d'une fiction, quand bien même autobiographique. C'est facile de se raconter quand on a une enfance, même agréable et gentille, dans une famille d'accueil.
Oui, c'était beaucoup plus facile que le premier, parce que le premier, j'ai écrit sous le coup d'un gros chagrin, la perte d'un de mes frères aînés de notre fratrie très particulière. Et celui-ci, il m'est venu beaucoup plus facilement. Oui, j'ai écrit beaucoup plus facilement, avec plus de plaisir, et surtout avec l'envie d'en terminer, d'en finir avec une histoire longue de presque 60 ans maintenant. Et du coup, non, j'ai pas eu de difficulté, plutôt un réel plaisir et surtout de mettre le mot fin à mon histoire, à mon abandon peut-être, je pense même.
Donc c'est Improbable rencontre, votre roman autobiographique, sous la plume donc de Zora Malfondet. Alors, On a parlé de Aligny en Morvan. Nous avons la chance d'avoir Jean-Pierre Renaud à nos côtés. Bonjour Jean-Pierre Renaud. Est-ce que je peux, dans un premier temps, comme pour Zora, vous demander de vous présenter ?
Bonjour. Bah écoutez, simplement, moi, j'écris. Et puis, j'ai écrit à Aligny dans la maison de Genet qui, à un moment donné... il y avait encore l'hôtel hein, où il y a le musée maintenant, c'est en face de l'hôtel et puis voilà, j'ai vécu dans le village, j'ai écrit dans le village.
Donc vous êtes originaire et vous vivez actuellement à Aligny en Morvan.
Moi je vis à côté à Anneau, mais là j'étais venu en résidence d'écriture, j'avais choisi de vivre dans les bois là où Genet était, sur les temps des Payus, et puis voilà, je suis resté écrire là à l'endroit. C'est-à-dire que Genet, il était oublié à ce moment-là. Les enfants de l'assistance, d'une certaine manière, étaient pas vraiment sur le devant, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'ombre plutôt, et dans le silence. Voilà, et tout ce travail a constitué, a retrouvé la parole. C'est un livre très, très parlé, très oral. Puis j'ai interviewé tous les vieux du coin qui avaient été avec lui à l'école, à Aligny, quoi, dans les années 20-30. Donc ça a pris beaucoup de temps. Voilà.
Alors, il faut bien dire que l'écrivain Jean Genet, qui est mort au début des années 80, semble-t-il.
86, hein.
Jean Genet a été placé dans une famille de fermiers à Aligny, en Morvan, où il a eu une assez belle enfance. Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y a eu aussi des enfants placés dans des familles qui ont été exploitées. Il y a eu des témoignages de toutes sortes, tout de même.
Oui, non, lui, il menait la vache au champ quand il sortait de l'école. C'était... Non, il a eu... Au contraire, il a eu plutôt avec... Jenny Régnier, il a eu une très belle enfance et c'est au moment où il arrivait après le certificat d'études et qu'il devait quitter le village que pour lui ça a été le départ vers les fugues, si j'ose dire, si on peut dire, et vers les voyages. C'est-à-dire que c'est là qu'il a souffert de perdre sa mère adoptive.
Et votre roman donc a pour titre « Une enfance abandonnée, Jean Genet à Aligny en Morvan ». Ça a été un grand plaisir de raconter la vie de Genet.
Bah écoutez, c'est...
C'est le plus célèbre d'Aligny en Morvan.
Là, il fait partie des deux milliardaires, oui, avec le boulanger Culafroy, qui porte le nom de Culafroy dans son roman et qui s'appelait Eulafroy et qui est devenu milliardaire avec la boulangerie industrielle, comme quoi il n'y a pas de malheur à être enfant d'assistance. Hein. Il y a réparation, c'est ce que fait le musée des nourrices. C'est-à-dire, je trouve que ce musée est très beau parce que il s'est fait d'arrache-pied, si j'ose dire, mais c'est un musée qui répare, ouais. C'est pour réparer les enfants.
Et il y a une salle spécifiquement consacrée à Jean Genet, Martine ?
Il y a plusieurs espaces où il est question de Jean Genet.
Y a-t-il des souvenirs matériels, documentaires de l'enfance de Jean Genet à Aligny en Morvan ? Reste-t-il des choses ?
En réalité, très peu. Nous avons une barrière qui est sûrement la barrière du pré où il menait la vache en pâture. Sinon, nous avons des livres et certains livres qui viennent de l'école, du fond de la bibliothèque de l'école d'Aligny. Et vraisemblablement, ce sont des livres qu'il a dû parcourir étant enfant, parce qu'il lisait beaucoup. Tout le monde s'accorde à dire cela. Il lisait beaucoup et ses livres étaient disponibles à l'école où il était. Donc peut-être que ces livres-là, il les a feuilletés.
Merci Martine Chalambre pour ces précisions. Alors c'est Francis Vena qui a maintenant le micro. Bonjour Francis.
Bonjour.
Vous êtes donc vous aussi sur le stand du musée des nourrices avec un récit, enfin une autofiction, va-t-on dire, intitulé « Moi, Lucie, 17 ans en 1939, la guerre et après ». C'est aux éditions de l'Harmattan. Francis Vena, puis-je vous demander de vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, écoutez, alors j'ai plusieurs points communs. C'est très intéressant de voir mes voisins et voisines parler de leurs propres histoires parce que, évidemment, le point qui nous rapproche, c'est les enfants de l'assistance. Mon grand-père était de l'assistance et élevé à Dron, près d'Anneau. J'ai une maison familiale à Anneau, donc on est voisins sans se connaître. Alors, pour ma part, j'ai été élevé avec des grandes périodes de vacances lumineuses. Même l'hiver, dans le Morvan, c'était lumineux pour un enfant, et l'été à Pâques, etc. Et j'étais parisien de naissance, donc j'ai un pied dans chacune de ces deux régions. Pour ma part, je suis retraité maintenant et c'est mon premier ouvrage littéraire.
Alors, vous parlez de votre maman dans ce
tout à
roman,
fait.
Enfin, dans cette autofiction. Je suis gêné. Je ne sais pas quel terme il faut retenir.
Oui, autofiction, c'est bien ça. C'est-à-dire que la construction a été faite simplement par une démarche familiale, quoi. Je voulais que ma maman, mon père étant disparu, nous raconte ce que jamais il n'avait voulu nous raconter parce que ça aurait été un poids trop lourd à porter pour nous, enfants, qui nous éveillions à la vie avec tout ce que l'innocence peut nous apporter. Et donc, il n'était pas question de nous faire porter ça. Et c'est moi qui ai pris l'initiative de lui dire, écoute, tu nous as raconté deux, trois trucs des fois, mais je ne comprends pas comment c'est passé. Elle a pris un cahier, Claire Fontaine, et elle a essayé, mais elle n'y est pas arrivée parce que l'histoire était trop loin. Et donc, j'ai enregistré des entretiens, des soirées, dans le train, un peu partout, et j'ai reconstitué les morceaux qui étaient une histoire purement familiale. Il se trouve qu'elle m'a aussi donné les lettres que ma maman s'est échangée avec mon père pendant la guerre, et tout ça constituait le squelette d'une histoire familiale purement. Et quand cette histoire a été reconstituée, si vous voulez, ce qui m'a déclenché dans l'envie d'écrire quelque chose, apporté au-delà, c'est-à-dire un travail littéraire, c'est une espèce de colère qui consiste à se dire, mais cette histoire anonyme, individuelle, qui n'est ni des collabos, ni des résistants, ni des délateurs, ni dans ces catégories savantes qu'on apprend de l'histoire, en fait, ces gens-là ont traversé la guerre, d'abord avec parfois douleur, difficulté, et avec conséquences difficiles. C'est pour ça que le titre s'appelle « Et après ». Souvent dans les manuels, si vous voulez, on raconte l'histoire, la guerre, 39-45. Et après, c'est les 30 glorieuses. Sauf que les gens qui, par bonheur, n'ont pas été tués ou suppliciés, etc., ont vécu après. Et ils ont vécu, et ils ont, leur histoire a été, d'une certaine manière, cassée. Et c'est ça qui a, si vous voulez, été le motif du ressort de l'histoire. J'ajouterai quelque chose qui est un de nos points communs, c'est sur les enfants de l'assistance. Mon grand-père a été un petit Paris, comme on dit, et là aussi j'ai remonté un peu le fil de ça. Et ce dont je me suis rendu compte, si vous voulez, c'est que les enfants de l'assistance, c'est à la fois un modèle économique, parce que eh bien, les enfants arrivaient et les parents touchaient de l'argent pour élever ces enfants-là, et en retour, les jeunes femmes qui avaient un enfant allaient à Paris pour être nourrices dans les familles bourgeoises pour lesquelles c'était un peu un avilissement que d'allaiter les enfants. Donc ce modèle économique existait, mais c'était aussi un modèle affectif. Et donc je rejoins ce qui a été dit sur Jean Genet, c'est-à-dire que il s'est écrit de très belles histoires pour les enfants de l'assistance. Des histoires très difficiles, des enfants de l'assistance étaient loués, certains étaient loués pour travailler, et d'autres étaient véritablement dans des familles avec des frères et des sœurs. Et mon grand-père, par ma mère, a vécu, je le sais, une vraie famille, une vraie intégration. Et il était un morvandio à part entière quand il était adulte, connu. Il allait tâter le cul des bêtes sur les foirailles, etc. Donc, et ce que j'ai dit déjà, c'est que ce qui est superbe, c'est qu'un enfant sans racines et sans histoire nous a donné, nous ici, des racines et une histoire grâce au fait que l'intégration familiale s'est vraiment très très bien passée.
Francis Vena, à l'instant à notre micro pour « Moi, Lucie, 17 ans en 1939 », ouvrage disponible en librairie aux éditions de l'Harmattan. Pas de panique si vous n'avez pas eu le temps de noter les titres, les références des ouvrages des auteurs interviewés. Vous allez tout de suite pouvoir les retrouver sur le site d'archives de votre émission en pianotant www.yannickpetit.fr. Juste après la pause musicale que nous allons vous offrir, nous reviendrons sur Roger de Rabutin, comte de Bussy, l'inventeur d'un certain libertinage bien français, notamment avec son roman qui fit scandale, L'histoire amoureuse des Gaules. Nous reviendrons donc sur cette figure méconnue du grand siècle au cours d'un entretien réalisé lors de la 21e fête du livre d'Autun, puisque nous avons rencontré Daniel-Henri Vincent, créateur de la Société des Amis de Bussy Rabutin. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et on se retrouve juste après.
So wonderful. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci d'être avec nous ce soir sur votre radio locale. Nous vous proposons un compte-rendu de la 21e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 7 et 8 avril dernier. Et cette année 2018, nous voyons commémorer le 400e anniversaire de la naissance de Roger de Rabutin, comte de Bussy. Ce Roger de Rabutin est de bonne noblesse bourguignonne, officier général courageux, fidèle à la cause royale pendant la Fronde, cultivé et galant. Il est surtout l'inventeur d'un certain libertinage bien français. Il est l'auteur d'un roman à clé qui fit scandale, l'histoire amoureuse des Gaules. Roger de Rabutin a été d'ailleurs emprisonné à la Bastille, où il a finalement été contraint à écrire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dispose de lui d'une abondante correspondance. Et puis ensuite, après avoir été embastillé, Bussy Rabutin a finalement été contraint à une vie d'exil qui le désole. Alors pour évoquer ce personnage qui deviendra l'un des grands mémorialistes de son temps, nous avons tendu notre micro à Daniel-Henri Vincent, auteur aux éditions Perrin en 2011 d'une biographie de Rabutin, malheureusement épuisé, et il était présent au stand des éditions universitaires de Dijon pour y présenter un recueil de lettres inédites de Bussy Rabutin. Tout de suite, Daniel-Henri Vincent, c'était à Autun le 8 avril dernier.
Si je suis ici au Salon du Livre d'Autun, c'est parce que j'ai édité un certain nombre d'ouvrages, dont une partie sont consacrés à l'œuvre de Bussy Rabutin. Si je m'intéresse à Bussy Rabutin, c'est pour beaucoup de raisons personnelles sur lesquelles je vais passer, évidemment, mais en particulier par mes études littéraires qui m'ont fait rencontrer le XVIIe siècle Bussy, et puis aussi le fait qu'ayant été directeur régional des affaires culturelles en Bourgogne dans les années 80, j'ai retrouvé Bussy dans les traces qu'il a laissées sur notre territoire, notamment son château dans l'Aussois, mais aussi le souvenir qu'il a laissé dans l'Autunois.
Alors, cette année 2018 voit commémorer le 400e anniversaire de la naissance de Bussy Rabutin. Il est né donc en Saône-et-Loire, au château d'Épiry, un vendredi saint, donc le 13 avril 1618. Et le fait que Bussy Rabutin soit né un vendredi saint prend de l'importance.
Oui, Bussy est originaire d'une très importante famille on dirait aujourd'hui du Mâconnais, du Charolais, les Rabutin, qui ont plusieurs branches, dont deux principales, celle des Chantal. On va retrouver ce nom sûrement à plusieurs moments dans notre entretien, et puis les Bussy. Et donc cette importante famille possédait à l'époque, celle des Bussy, possédait à l'époque le château d'Épiry, où il a été, où il est né, où il a été baptisé, en 1618. Mais il y avait un personnage important qui était Jeanne Frémiot, qui était baronne de Chantal et qui est beaucoup plus connue maintenant sous le nom de Sainte Chantal. Elle n'était pas sainte à l'époque, mais elle avait déjà une vie particulièrement exemplaire. Et c'est celle qui a dit, lorsque Bussy Rabutin est né, qui a dit qu'il serait le saint de sa race, peut-être parce qu'il avait eu la chance de naître un vendredi saint. Mais l'avenir a montré qu'il allait être très loin d'être un saint.
Alors parlons de la formation morale et militaire de Bussy Rabutin. Des études auprès des frères jésuites, on imagine tout de même une morale infaillible au milieu des jésuites. Et puis ensuite, quand on fait partie de la noblesse, quand on ne choisit pas la voie du clergé, on choisit celle des armes.
Oui, pas toujours d'ailleurs, on choisit, c'est pas toujours l'individu qui choisit, c'est plutôt sa famille. Donc Bussy a eu la chance, si l'on peut dire, de perdre son frère aîné et donc de pouvoir, alors qu'il était en principe destiné à devenir chevalier de Malte, à pouvoir s'adosser à la carrière militaire. Et donc après cette solide formation que vous avez souligné chez les jésuites, qui était une formation d'honnêtes hommes très importante, avec des études de latin, des études de philosophie, des études littéraires. Et ensuite, il a eu une formation de jeune officier, d'abord sur le terrain, avec le régiment de son père, et ensuite dans une académie militaire.
Alors, une formation militaire qui ne reste pas que théorique, puisqu'en fait, Bussy-Rabutin a connu des campagnes militaires assez prestigieuses, d'ailleurs.
Oui, et très tôt, dès l'âge de 17 ans, 18 ans, il s'est retrouvé à la tête du régiment de son père, et il a combattu en Lorraine, il a combattu en Flandre, évidemment, pas toujours dans des conditions très confortable, puisqu'à l'époque, la guerre était quand même une affaire assez rude et difficile. Mais il s'est bien comporté, même si les armées du roi à l'époque, le roi c'était Louis XIII, n'ont pas connu de succès majeur.
Alors il se marie et avec l'argent hérité de la dot de sa femme, il achète une charge de capitaine-lieutenant. Donc il choisit vraiment le milieu militaire pour y faire son trou, si je peux me permettre l'expression.
Oui, pour y tracer sa voie en tous les cas et, selon son expression, acquérir de la gloire. Car c'est une chose qui lui paraît importante dans la destinée d'un homme de qualité à son époque, c'est d'acquérir de la gloire. Donc il achète, puisqu'à l'époque c'était ainsi que ça se faisait, il achète cette charge de capitaine-lieutenant des chevaux légers du prince de Condé. Alors pourquoi le prince de Condé? Parce que le prince de Condé était gouverneur de Bourgogne et qu'il avait... on mettait à son service les nobles les plus prometteurs de la province. Et il a ensuite exercé cette charge avec principalement celui qu'on a appelé après le Grand Condé, c'est-à-dire Louis de Bourbon. Et il s'est parfaitement entendu, au moins dans un premier temps, avec ce très grand général.
Donc, un Bussy-Rabutin qui aime l'aventure, qui aime les choses militaires et qui s'y plaît bien. C'est pas le courtisan comme on en a connu d'autres en France. C'est un homme de terrain, un homme d'action.
C'est un homme d'action au moins 6 mois de l'année, puisque à l'époque, on ne combat pas l'hiver. Donc l'été, à partir des beaux jours, il va combattre. Juste quand il y a la guerre, naturellement, mais il combat jusqu'à l'automne, et puis à partir de l'automne, il revient à Paris où il vit et où il fréquente les salons. C'est-à-dire qu'en permanence, la vie de Bussy se passe en deux temps et en deux zones. Il y a l'armée et il y a les salons. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois honnête homme, à la cour, à Paris, dans les salons, et il est grand officier à la guerre.
Alors je rappelle donc, Bussy-Rabutin né en 1618, 30 ans plus tard c'est la régence d'Anne d'Autriche, entre temps donc fin 1642 le cardinal de Richelieu disparaît, Louis XIII lui
l'année
succède
d'après,
aussi
oui,
au tombeau fin 1643 et le royaume de France va connaître un épisode qu'on appelle la Fronde. Un petit rappel, puisque j'ai un historien et un intellectuel qualifié pour en parler.
Oui, enfin, si c'est vous qui le dites, je ne vais pas dire le contraire. Oui, après la mort de Louis XIII, il y a une période qu'on appelle la régence, car le roi Louis XIV, qui est né en 1638, est un enfant. Et donc, il y a la régence qui est confiée à sa mère, la reine Anne d'Autriche. Et pour gouverner le pays, elle le fait avec le cardinal de Mazarin, qui est Premier ministre et avec laquelle Mazarin et la reine s'entendent fort bien. Et cette période de la belle régence, comme on l'a appelée, se déroule dans un premier temps parfaitement bien, mais les grands nobles, les grands seigneurs, les membres de la plus haute aristocratie, notamment les Condés, ont des velléités d'affirmer une puissance que le cardinal de Richelieu avait largement écornée. Et puis il y a les parlements, et notamment le parlement de Paris, qui lui aussi veut affirmer son autorité. Et donc la Fronde, c'est à l'intérieur de cette période qu'on appelle la régence, c'est une forme de révolte, d'abord des parlementaires, c'est-à-dire de la bourgeoisie de robe et de la noblesse de robe, contre Mazarin et contre la reine, mais enfin, on dit surtout contre Mazarin. Et puis, dans un deuxième temps, c'est la fronde des nobles, et en particulier de Condé et de son frère Conti, mais surtout de Condé. Et c'est là que Bussy va vivre une période difficile de sa vie.
Alors, Bussy va se ranger du côté de ceux qui mènent la fronde, qui est à combat. Enfin, c'est militaire, il faut bien comprendre que c'est militaire.
Absolument, absolument. C'est une époque, enfin, après
la contestation du pouvoir politique par le biais des armées.
C'est une contestation par le biais de troupes qui sont levées par notamment le prince de Condé, qui est le leader, comme on dirait aujourd'hui, de la fronde des princes. Et il lève des troupes pour combattre d'autres troupes, celles qui sont fidèles au roi et commandées par Mazarin. Et dans ce combat, il y a, on peut dire que la France a été ravagée par les combats de ces deux troupes dont il fallait bien qu'elles s'approvisionnent dans les villages. Donc c'était quelque chose de tout à fait catastrophique pour la France et qui s'est terminé par le départ de Condé qui est passé au service des Espagnols. Alors si dans un premier temps, Bussy, par fidélité à Condé, était resté à ses côtés, au tout début de la fronde des princes, très vite, quand Condé s'est opposé d'une manière frontale aux troupes royales, Bussy est passé du côté du roi, est resté du côté du roi, et donc a combattu Condé.
Alors du côté du roi, Bussy rencontre une figure austère, mais là aussi un grand prince, c'est Turenne. Et c'est peut-être à partir de là que l'esprit taquin, moqueur de Bussy se met en place.
Non, alors bien sûr, l'esprit galant, l'esprit médisant, mais avec beaucoup d'esprit de Bussy, s'était formé et développé dans les salons parisiens autour de Madame de Rambouillet, enfin tous les salons autour de Ninon de l'Enclos, de Scarron, enfin bref, dans tous les lieux où à Paris il y avait de l'esprit. Donc cet esprit, il l'avait. Simplement, quand il s'est retrouvé sous les ordres de Turenne, alors principalement après la fronde, il a exercé son esprit caustique et satirique au détriment de Turenne. Et Turenne, évidemment, austère, protestant, sérieux dans son rôle de grand chef d'armée, n'a guère apprécié Bussy, et ça s'est pas très bien passé entre eux.
Alors, Bussy Rabutin, c'est une figure de l'univers libertin telle que la France l'a connue au milieu du XVIIe siècle. Il y a cette histoire amoureuse des Gaules qui est rédigée en 1659, mais qui va paraître quelque temps plus tard, en 1665, donc au tout début du règne de Louis XIV, 1665, oui. Hein, c'est 4 ans après l'accession de Louis XIV au trône, le jeune roi Louis XIV. Et cette histoire amoureuse des Gaules présente une certaine image peu reluisante de la cour de celui qui va devenir le roi Soleil.
Oui, et le fait que vous citiez cette histoire amoureuse des Gaules, qui est un roman satirique qui a été écrit par Bussy, un des tout premiers romans de France d'ailleurs, il a dans ce domaine un rôle précurseur tout à fait évident, permet de préciser ce qu'on appelle par libertin à cette époque. Au fond, le terme de libertin recouvre trois réalités différentes. Le libertin de mœurs, bah, tout le monde comprend ce que c'est. C'est un comportement personnel, galant, qui n'est peut-être pas approuvé par tout le monde. Mais ça, j'allais dire, c'est pas très important parce que à son époque et dans sa classe sociale, c'était une pratique tout à fait courante.
Ce qui est grave, c'est le libertin contestataire de l'ordre religieux.
Voilà. Alors, deuxième sens de libertin, c'est celui qui est pas forcément un athée, mais en tous les cas quelqu'un qui est sceptique, quelqu'un qui n'accepte pas l'ordre moral tel que la religion catholique en particulier veut l'instaurer à cette époque, après la contre-réforme. Et là, Bussy fait partie évidemment des libertins à ce sens-là du terme, des libertins sceptiques sur le plan religieux.
Ce qui est dangereux pour eux.
Alors ce qui peut être dangereux pour eux, quand les on dirait aujourd'hui les intégristes, quand les chrétiens ou les catholiques, en tous les cas, les plus austères, les plus tenants d'une morale stricte, peuvent exercer le pouvoir, comme c'était le cas du temps de la régence d'Anne d'Autriche, avec notamment la confrérie du Saint-Sacrement. Et donc, il est libertin à ce sens-là, mais il est aussi libertin dans le troisième sens du terme, c'est-à-dire ce libertin politique, entre guillemets, ce n'était pas un affrontement politique comme on l'entend aujourd'hui, mais le fait de publier cette histoire amoureuse des Gaules, qui donnait une image de la cour du roi particulièrement contestable, particulièrement soumise à censure, était quelque part perçu comme un acte politique. Donc Bussy était bien libertin aux trois sens du terme, et c'est ça qui l'a conduit à la prison et à l'exil.
Alors effectivement, embastillé pendant une bonne année.
Oui.
Et vous dites finalement, l'épisode de la Bastille est un épisode intéressant parce que sans la Bastille, nous n'aurions peut-être pas les mémoires de Bussy Rabutin.
Absolument. Imaginons, et ce n'est pas faire de l'histoire fiction, mais imaginons qu'il n'ait pas été mis dans sa prison de la Bastille. Imaginons qu'il n'ait pas été ensuite exilé en Bourgogne pendant 16 ans. Probablement, s'il avait accédé à la dignité de maréchal de France, il se serait trouvé à commander l'armée, il se serait trouvé à la cour en permanence avec la vie de cour. Il n'aurait pas écrit, ou peu écrit. Alors que grâce à la Bastille et à l'exil, il a écrit. Il a fait une œuvre littéraire tout à fait considérable, d'abord avec ses mémoires, écrits à la Bastille, puis ensuite, quand il était exilé, avec ce qu'il appelle, lui, la suite de ses mémoires, c'est-à-dire les lettres qu'il écrit à ses correspondants et les lettres qu'il reçoit de ses correspondants assaisonnées de commentaires sur le temps tel qu'il va.
Alors, une des personnes à laquelle il écrit le plus, c'est sa cousine, la célèbre Madame de Sévigné.
Oui, pour deux raisons. La première est que Madame de Sévigné et lui partageaient le même esprit et donc pouvaient, dans leurs échanges entre eux, oraux, mais ça, on n'en a pas gardé la trace, mais dans les échanges épistolaires, par lettres, ils partageaient le même esprit, ils rabutinaient. On a inventé le verbe rabutiner pour décrire le mode de relation qu'ils ont ensemble par leurs lettres. Ils ont le même esprit. Et puis aussi, Madame de Sévigné écrit très bien, naturellement. Et c'est ça qui plaît beaucoup à Bussy. Et c'est d'ailleurs Bussy qui va faire connaître Madame de Sévigné. Car comme il recopie ses lettres, qu'il les met dans des volumes, qu'il fait circuler notamment à la cour, que le roi a pu lire, c'est là qu'on a pu découvrir les qualités épistolaires, les qualités d'écriture de Madame de Sévigné. Et donc qu'ensuite c'est devenu probablement notre plus grande épistolaire.
Vous l'avez dit, 16 années d'exil en Bourgogne, notamment au château de Chazeux et au château de Bussy, et l'hiver à Autun.
Plutôt l'hiver à Autun, oui.
Et comment se termine la vie de cet incroyable et extraordinaire Bussy Rabutin ?
Eh bien, elle se termine plutôt bien, finalement, parce que, alors qu'il a pu craindre d'être exilé et rejeté dans les ténèbres extérieures, mort pour la cour pendant très longtemps, eh bien, il revient à partir de 1682 à la cour. Comme il n'a pas beaucoup d'argent, il ne reste pas très longtemps à la cour, car ça coûte très très cher de rester à la cour, mais il y revient périodiquement. Donc il est à la cour quand il le veut. Le roi lui accorde à sa famille un certain nombre d'avantages, de faveurs, et puis lui-même, oui, de privilèges, et puis lui-même reçoit une pension, une importante pension vers la fin de sa vie de 4000 livres, ce qui est considérable, alors qu'il, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est impécunieux, donc c'est une dotation importante. Et puis finalement, le roi fait savoir que Bussy pourrait être élu des nobles de Bourgogne qui se réunissent périodiquement aux États, et donc il deviendrait de cette manière-là une sorte de premier noble, de premier aristocrate de Bourgogne. Et donc Bussy pourrait terminer fort bien sa vie si, malheureusement, un peu avant, c'est-à-dire à arriver à ses 75 ans. Il ne mourait en 1693 à Autun.
À l'instant, à notre micro, c'était Daniel-Henri Vincent pour les lettres inédites de Bussy-Rabutin disponibles aux éditions universitaires de Dijon. L'occasion de découvrir ce grand seigneur bourguignon qui a mené une vie libertine peu exemplaire, hein, qui lui a valu d'être indésirable à la cour du roi Soleil. Je rappelle que Bussy-Rabutin est né un vendredi saint, très précisément le 13 avril 1618 à Épiry, dans l'Autunois, et Bussy-Rabutin est mort en 1693. D'ailleurs, dans la biographie qu'il a consacrée à Bussy-Rabutin, Daniel-Henri Vincent écrit ceci. Bussy est un grand écrivain, un des plus complets et divers du grand siècle, auteur de portraits, de devises, de maximes, de traductions, de chansons, de lettres, de mémoires, de discours et d'un roman. Le lecteur peu familier de la littérature de cette époque trouvera quelquefois son style apprêté. Le temps a mis parfois un grain de poussière sur ses tournures, ce qui n'est pas sans charme. Sa plume est galante, spirituelle, impertinente, vive et médisante. La critique moderne rejoint ses contemporains pour vanter sa langue classique et sa concision, cette divine manière de ne pas dire un mot superflu. En tout cas, on le connaît de plus en plus et de mieux en mieux grâce aux publications récentes de ses œuvres et aux études qui ont été entreprises, surtout après le tricentenaire de sa mort en 1993. Bussy-Rabutin ne renaît peut-être pas de ses cendres comme le phénix, mais il sort de l'ombre où on l'avait abandonné. Très bonne soirée à toutes et à tous. Avant de vous proposer une nouvelle pause musicale, je ne peux que vous encourager cet été à aller visiter en Côte d'Or le château de Bussy-Rabutin près de Montbard, dans un vallon boisé de l'Aussois, très précisément à Bussy-le-Grand. Vous pouvez d'ailleurs aller découvrir la beauté de ce château où séjourna Bussy-Rabutin sur le site internet du château www.chateau-bussy-rabutin.fr. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer pour vous faire rencontrer Véronique Vasseneau, auteur jeunesse.
Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime. L'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime. Rien ne nous séparera, même pas une chrysanthème. Tu verras, on se ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime. Rien ne nous séparera, même pas terme, tu verras, on se retrouvera. on se retrouvera. On se retrouvera.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Pour finir notre émission, nous vous proposons un reportage avec Véronique Masneau, auteure jeunesse que nous avons rencontrée le 8 avril dernier lors de la 21e fête du livre d'Autun. Elle évoque à notre micro ses débuts en littérature, notamment avec son premier roman, Lettres à une disparue, qu'elle présentait exactement 20 ans jour pour jour à la fête du livre d'Autun. Véronique Masneau publie des albums qu'elle illustre parfois et des textes pour la presse enfantine. Son deuxième roman, Soliman le Pacifique, journal d'un enfant de l'Intifada, a obtenu le prix du ministère de la Jeunesse, prestigieuse récompense décernée avant publication sur manuscrit anonyme. Véronique Masneau, à notre micro.
Je suis née à Dijon pendant que mes parents faisaient leurs études de lettres, justement. Et ensuite, ils ont été nommés à Auxerre. Et donc, j'ai grandi à Auxerre jusqu'à mes 18 ans où je suis partie faire des études à Paris.
Véronique Masneau, merci pour ces précisions. En discutant avec un des bénévoles de l'association Lire en pays autunois, je donnais son prénom, c'est Henri, un grand homme à la barbe blanche, un grand sage. Henri me faisait remarquer que vous êtes venue la première fois à la fête du livre d'Autun. Vous étiez une jeune femme de 25 ans et vous êtes venue avec un premier texte qui est celui, sauf erreur, qui est celui que j'ai entre les mains et que l'on peut se procurer au livre de poche, qui est un petit roman intitulé, enfin un recueil de lettres, Lettres à une disparue. Véronique, c'est donc la vérité.
Oui.
Et que raconte ce recueil de lettres à une disparue?
Voilà, mais c'est un roman épistolaire. Et effectivement, c'est mon premier roman. Donc voilà, ça fait 20 ans exactement, en avril 2018, donc, que je fais ce métier. Et la première fête du livre d'Autun était aussi ma première fête du livre. C'était mon premier salon. Et c'était la première fois que je me retrouvais derrière une table avec mon... Donc j'avais un seul livre. Et donc j'ai appris là, sur le tas, à Autun, à dédicacer mes livres.
Alors, Lettre et, à une disparue a connu un grand succès de librairie.
Oui, mais il vit sa vie en parallèle de moi. Enfin voilà, il est grand, il fait son chemin. Et je sais que là, j'en ai vendu presque 350 000 exemplaires, donc en 20 ans quand même. Mais voilà, il est beaucoup lu dans les collèges, dans les lycées. Donc, ce qui explique aussi le nombre.
Fait-il partie des ouvrages recommandés par l'Éducation nationale?
Oui.
Et d'ailleurs, il y a, au début de ce roman épistolaire, une petite bio vous présentant. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? À l'éternelle question embarrassante et indiscrète que les adultes s'obstinent à poser aux enfants, Véronique Masneau, n'osait pas répondre la vérité. Des livres et des bébés.
Oui.
Alors, vous avez deux enfants, je crois.
Alors, j'en ai trois même.
Trois maintenant?
Oui, j'en ai trois.
Et combien de livres alors?
40. Heureusement, c'est pas l'inverse.
Alors, en suivant votre activité sur la page Facebook, vous êtes extrêmement active. Vous êtes tantôt à l'étranger. Madagascar vous occupe beaucoup. Auteur, artiste et engagé?
Oui, en fait...
C'est pas un gros mot, j'espère.
Ah non, pas du tout. Ah non, au contraire, je revendique absolument. Mais en fait, je suis engagée, on va dire, dans le partage et la curiosité. Donc, moi, je peux pas rester chez moi, écrire des livres toute seule dans mon bureau. Il y a un moment, il faut que ça circule, il faut que je vois comment ils sont accueillis par les autres. Et puis, voilà, en fait, le livre, pour moi, c'est plutôt un moyen de communiquer avec les autres que juste écrire un livre. Voilà, c'est un support en fait, peut-être pour aller vers les autres.
Alors, gros succès, je vous ai dit que au mois de février, boulevard Saint-Germain à Paris, dans une devanture de librairie, j'ai vu plusieurs de vos albums mis en valeur. Beau succès d'édition. combler sans doute dans la vie, en tout cas ça se voit sur votre sourire. Et j'imagine que les parents, anciens professeurs de lettres, une maman inspectrice des lettres que j'ai connue il y a quelques années, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, doivent être fiers de leur fille.
Oui, oui, ils sont très fiers, j'avoue, ce sont mes meilleurs attachés de presse. Et moi, je les remercie beaucoup parce que, bon, évidemment, ils m'ont transmis un amour des livres qui n'est pas pour rien dans ce que je fais aujourd'hui, forcément.
Alors, comment se passe la collaboration? Parce que j'ai vu différents noms d'illustrateurs. Vous êtes auteur, c'est-à-dire que, bien sûr, vous écrivez les textes. Comment se passent ces collaborations? Comment rencontre-t-on un dessinateur? Il faut, je suppose, une complicité. Est-ce qu'elle est intellectuelle, artistique? Comment s'opère la création d'un tandem?
Oui, alors souvent, ce qui surprend les gens, c'est d'apprendre que la plupart du temps, en fait, l'auteur écrit d'abord, puis il envoie son texte à un éditeur. L'éditeur, lui, va accepter ou pas le texte. Et s'il l'accepte, souvent, c'est parce que lui-même, en tant qu'éditeur, il a envie de faire travailler tel ou tel illustrateur, tel artiste. Et le texte va lui évoquer un univers et va lui donner envie de faire appel à un illustrateur. Donc souvent, c'est pas l'auteur qui choisit l'illustrateur. Donc il ne choisit pas son complice lui-même. Et alors parfois, il y a toutes sortes de possibilités. Moi, j'ai aussi fait un album, justement, à plumes, à poils et à paillettes, dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est vraiment un projet qui est né de ma complicité avec Peggy, l'illustratrice, Peggy Neal, parce qu'on avait travaillé sur d'autres projets, on s'est bien entendu. Elle a une idée toutes les deux secondes, donc c'est très... ça donne envie, quoi. C'est très moteur. Et en échangeant, on a construit ce projet à deux et ensuite on est allé voir ensemble un éditeur. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe.
Alors vous ne travaillez pas qu'avec des illustratrices, vous travaillez aussi
avec
des illustrateurs. C'est le cas du dernier que nous avons là sous les yeux, Nian Shu, le monstre du Nouvel An chinois. Donc l'illustrateur, c'est Sébastien Chebret.
Oui.
Et c'est pareil, les livres ont des formats variés, hein, tantôt rectangulaires, carrés, il y a des grands formats.
Oui.
Celui-ci, un petit format qu'on peut glisser entre les mains d'une petite fille de 4-5 ans,
tout à fait,
je dirais, mais même d'un adulte hein, d'ailleurs. Et là, c'est... C'est l'éditeur.
L'éditeur, c'est l'élan vert, voilà. Et la collection, c'est les petits M. Et là, en l'occurrence, les petits M, les contes. Parce que j'ai commencé à rassembler, en fait, des contes traditionnels que je raconte, voilà, à hauteur d'enfant à partir de 4-5 ans. Donc là, c'est un conte chinois traditionnel. J'ai raconté aussi Allô la baleine, c'est un conte de Patagonie. L'arbre à bonbons, Tisan et l'arbre à bonbons, c'est un conte de l'île Maurice, etc. Donc j'essaye encore une façon de voyager par les histoires et transmettre ces histoires-là aux petits d'ici.
Alors Nian Shu, le monstre du Nouvel An chinois, il y a d'ailleurs une petite explication préliminaire qui nous dit que l'histoire de Nian Shu se raconte en Chine depuis toujours, c'est-à-dire des millénaires, et que le passage d'une année à l'autre peut être vu comme une épreuve dangereuse.
Oui.
Et puis surtout, ce qui est amusant, c'est que la quatrième de couverture précise que Madame Fang est trop vieille pour aller se cacher. Alors Véronique Masneau, qu'est-ce qui se passe dans ce Nian Shu, le monstre du Nouvel An chinois?
À cause ou grâce à Madame Fang qui ne peut plus aller se cacher parce qu'elle est trop vieille, va naître une solidarité villageoise qui va faire qu'on va changer d'attitude face au monstre et au lieu d'aller se cacher comme chaque année, cette fois on va l'affronter. Mais on va l'affronter de manière intelligente, drôle et du coup ça changera complètement le cours de l'histoire et des traditions.
Alors vous reprenez des contes, est-ce que parfois il y a des histoires que vous inventez complètement?
Oui,
il n'y a
oui.
pas que des réécritures de textes qui parfois viennent d'ailleurs de la tradition orale,
oui,
et qui
oui,
parfois
oui.
ont été déformées ou,
oui,
ou
oui,
reformées.
Oui, tout à fait. La première fois que j'ai fait ça, enfin, c'était d'ailleurs chez le même éditeur, mais il m'avait demandé de réécrire Hansel et Gretel dans l'optique d'être illustré par Xavier De Vos, hein, qui avait très envie voilà, de se confronter à un texte traditionnel, à dessiner les enfants, la sorcière, les bonbons, etc. Et pour moi, ça a été un exercice en fait, de me plonger justement dans toutes les versions différentes d'Hansel et Gretel. Selon les époques, on n'appuie pas du tout sur les mêmes aspects du conte. C'était assez passionnant et donc j'ai essayé d'écrire ma version à moi. Donc après, oui, c'est un exercice que je fais avec plaisir. Mais j'écris aussi beaucoup évidemment d'histoires que j'invente moi-même.
Véronique Masneau, la réappropriation des grands textes de la littérature enfantine, est-ce que ce n'est pas un peu intimidant et est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, intellectuellement, un exercice dangereux ?
Oui, enfin,
dans le risque où l'on peut trahir, enfin.
Oui, bien, c'est-à-dire oui, il faut avoir conscience de tout ce qui existe déjà pour oser dire, bah, moi je vois plutôt ça comme ça et je vais vous raconter ma vision. Et c'est exactement ce que je fais aussi pour Niam Chou par exemple. Je sais que c'est un conte traditionnel chinois, en plus ce n'est pas ma culture, donc je dois respecter cette culture qui est là depuis des millénaires et moi je vais apporter mon petit grain de sel à moi. Mais c'est aussi tout ce qui fait le plaisir d'écrire, justement, de donner sa vision.
Véronique Masneau, lors de cette 21e fête du livre, vous rencontrez bien sûr des lectrices et des lecteurs. Vous retrouvez des personnes qui vous suivent de publication en publication ou qui vous ont connu parfois avec le premier Lettres à une disparue.
Ah oui. Hier d'ailleurs, il y a une dame qui est venue et qui m'a dit « Ah, mais je me souviens, vous étiez à la première, vous aviez qu'un livre, c'était celui-là, etc. » Oui, ça arrive souvent.
C'était Véronique Masneau, rencontrée le 8 avril dernier à son stand dans la salle de l'Hexagone où se tenait la 21e fête du livre d'Autun. Si vous souhaitez vous procurer les titres des ouvrages et leurs références évoquées dans ce reportage, vous les retrouverez sur le site internet de Véronique Masneau, www.véroniquemasneau.net ou alors sur notre site d'archives, le www.yannickpetit.fr. Mais allez découvrir le site de cet auteur jeunesse, parce qu'il est absolument coloré, original, magnifique, et il reflète véritablement le travail, l'inventivité et le talent de Véronique Masneau. Très bonne soirée, dernière petite pause musicale à bord de Wagon Livre, et on se retrouve juste après pour conclure et se dire au revoir.
Cumbersome sinking low, scatterlings and fugitives. Hooded eyes and weary brows seek refuge in the night. They are the scatterlings of our...
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ce 341e numéro de Wagon Livre était ce soir consacré à la deuxième partie du compte-rendu de la 21e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 7 et 8 avril dernier, une importante manifestation organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois, présidée par Nicole Grémaud, que nous saluons. Je tiens également à préciser que Radion et votre émission littéraire Wagon Livre sont partenaires de cette fête du livre autunoise, qui est un grand rendez-vous littéraire et culturel bourguignon, et ce depuis 2011, et nous en sommes fiers. Retrouvez toutes les références et les noms des auteurs interviewés ce soir via internet sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Mais avant de nous quitter, je voudrais saluer la mémoire de Christian Bilodeau. Christian Bilodeau est un romancier québécois que j'avais eu le plaisir de rencontrer en 2015, alors qu'il était en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay. Christian Bilodeau est passé devant notre micro à deux reprises, en 2015 et en 2017. Et j'ai appris la semaine dernière sa disparition. Il est inhumé au Québec, mais je voulais ce soir saluer sa mémoire. Et je rappelle d'ailleurs, pour celles et ceux qui l'auraient connu, je tiens à préciser que les deux émissions réalisées avec Christian Bilodeau sont disponibles sur le site d'archives de Wagon Livre. Il suffit, dans un cadre intitulé « Recherche », de taper Christian Bilodeau et les deux émissions apparaîtront sur l'écran de votre ordinateur et vous pourrez ainsi redécouvrir cet homme chaleureux, sympathique, qui aimait tellement la France, qui adorait la France et la langue française. Je voulais vraiment ne pas oublier de saluer la mémoire de Christian Bilodeau, qui en tout cas peut-être là où il se trouve désormais, continue de nous suivre et de nous encourager. La semaine prochaine, mercredi 9 mai, troisième et dernière partie du compte-rendu de la fête du livre d'Autun, avec notamment des interviews des auteurs des éditions de l'Armançon. Devant notre micro, vous pourrez entendre Claudine Vincenot, Loïc Le Goff et Georges Maglica. Et nous aurons l'opportunité, avec Philippe Ménager, d'explorer quelques-unes des plus belles fontaines de Lyon. Ce sera au programme de notre wagon livre la semaine prochaine, mercredi 9 mai, toujours à 21h sur votre radio locale. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une agréable fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.